l'assiette savoyarde sur France Bleu Pays de Savoie.
Sylvia Depierre.
Bienvenue dans le rendez-vous de l'assiette savoyarde. On va parler cuisine, mais pas que. Vous allez voir ce matin avec notre invitée, c'est Carole Prost. Elle est naturopathe. Elle est responsable du pôle naturopathie de l'école Esclarmonde à Genève, où elle enseigne. Elle est formatrice pour le réseau de magasins Biocop. Elle est cofondatrice et consultante pour l'organisation des académies de la santé naturelle qui ont lieu chaque année à Aix-les-Bains. Et avec Carole Prost ce matin, on va parler de l'aspect thérapeutique que peut avoir la cuisine. Bonjour Carole.
Bonjour Sylvia.
Alors en effet, la cuisine, on sait qu'elle nous fait du bien déjà par la qualité nutritionnelle des aliments que l'on ingère, mais on découvre avec vous que par l'implication, l'application que nous mettons à la faire, cette cuisine, elle a aussi des effets bénéfiques sur nous, c'est ça Carole?
Oui, et puis c'est pas une nouvelle parce que en fait, on a toujours trace en fait des effets bénéfiques de la cuisine à travers le temps, puisque elle fait partie des choses qu'on fait au quotidien. Donc on le voit souvent comme une corvée malheureusement aujourd'hui, alors que ça peut aussi être un moyen de s'épanouir, un moyen de se reconnecter à soi, dans une pratique un peu de pleine conscience. C'est un mot qui est assez à la mode aujourd'hui, ouais. Mais en même temps c'est assez facile d'utiliser la cuisine comme un moyen, un véhicule pour arriver à mieux se connaître et à être plus présent dans ses actes du quotidien.
Alors c'est la cuisine au sens large, parce que ça va du choix des aliments, hein, l'approvisionnement, tout ça, jusqu'à la dégustation, donc en passant par la transformation. C'est en plus un processus qui est très large et qui prend effectivement beaucoup de notre temps, si on regarde bien.
Ouais, ça peut même commencer par l'idée de qu'est-ce que j'ai envie de manger, ou qu'est-ce que je veux manger, ou comment je vais faire ma liste de courses, quel menu j'ai envie de créer pour ma semaine. En fait, on est d'abord dans le projet. Et ce projet, il est aussi en lien avec nos besoins, avec notre ressenti, nos ressentis, avec notre histoire, avec nos envies du moment, notre humeur, bien sûr. Hein. Si on est d'une humeur un peu affectée, un peu sensible, ben on n'aura pas envie de manger les mêmes ingrédients, que les mêmes aliments aussi, que si on est dans l'expression d'une joie intense, ou l'envie de partager un repas avec des amis, ou l'envie d'un plateau télé. Vous voyez, c'est déjà dans cette projection qu'on va comprendre comment la cuisine va rentrer dans notre quotidien et comment elle va pouvoir l'impacter à travers le choix aussi des menus et des aliments.
On est vraiment en lien direct finalement avec ce qu'on mange.
Au-delà en lien direct tout le temps, puisqu'on est fait de ce qu'on mange.
Oui,
quand
c'est
même.
Ça, on est fait de ce qu'on mange. Ça veut dire que cette cuisine, elle peut nous aider, si on va plus loin, à avancer sur notre chemin de vie. On peut aller jusqu'à parler de développement personnel avec la cuisine.
Alors pour moi, oui, c'est pas du tout à côté, hein. Au contraire, c'est du développement personnel à partir du moment où on part d'une position, d'une posture où on se rend compte qu'on n'est pas très à l'aise avec la cuisine. C'est pas du développement personnel pour quelqu'un qui vit ça de manière assez naturelle, pour qui c'est facile et qui n'a pas besoin forcément de travailler ça. Ça peut devenir du développement personnel quand il y a une problématique en lien avec l'alimentation ou avec le fait de cuisiner. Moi, je rencontre très très souvent des gens qui sont lassés en fait, hein, par le fait de faire à manger, parce que ça porte cette connotation d'héritage aussi un petit peu culturel. Ah, il faut, qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir?
Puis on a une forme de pression. Il faut manger plus ceci, moins ça.
Ah oui, alors aujourd'hui,
c'est
encore plus compliqué avec les injonctions alimentaires qui viennent se surajouter à l'obligation de se faire à manger pour se nourrir. Vous voyez, on en revient aussi à est-ce que je me nourris pour être, c'est-à-dire pour constituer mon être, ou est-ce que je me nourris parce qu'il faut avancer et mettre de l'essence dans la machine. Donc, si on part du postulat que l'alimentation va être un moyen de recherche pour améliorer son quotidien, à ce moment-là, ça rentre complètement dans le développement personnel.
En même temps, rassurez-moi, Carole, ça nous arrive à tous de dire « pas envie de faire à manger aujourd'hui, j'ai zéro idée de ce que je vais faire à manger
». Oui, mais alors après, je vais peut-être pousser le bouchon un peu loin, mais on peut manger une simple tranche de pain beurré en pleine conscience.
C'est ça, oui, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir se lancer dans des trucs de fou si on n'a pas l'esprit à ça et si on n'est pas disposé à ça.
L'idée d'utiliser la cuisine comme un moyen thérapeutique, de manière assez large, c'est d'abord de se reconnecter à ses sensations, c'est se reconnecter à son besoin, se reconnecter à soi-même, et du coup d'utiliser l'aliment vraiment comme une expérience. Et du coup, il n'y a pas de jugement.
C'est ça. sortir de ces jugements-là.
Ouais.
Vis-à-vis de soi-même, hein, cette culpabilité.
Surtout vis-à-vis de soi-même, puis aussi vis-à-vis de la société, le regard des autres. Qu'est-ce qu'on va penser si je mange ci, si je mange ça, c'est bien, c'est pas bien. Vous voyez, on est dans cette dualité.
C'est ça. Donc ce soir, un bon pain frais, un bon beurre au lait cru, c'est tartine pain beurre. Je préviens ma famille pour ce soir, les enfants, tout ça. Non mais voilà, on va discuter de tout ça avec vous, Carole. On se retrouve juste après Soft Cell et Tainted Love. Tainted Love, Soft Cell, 10h12 minutes, c'est l'assiette savoyarde.
Jusqu'à 11h,
l'assiette savoyarde sur France Bleu Pays de Savoie.
Sylvia Depierre.
On parle de cuisine et de son aspect thérapeutique, parce que oui, il peut y avoir cet aspect-là aussi dans la cuisine, avec Carole Prost qui est naturopathe. Donc Carole Prost, en fait, on peut parler d'expérience quand on cuisine, le terme d'expérience.
Une expérience du quotidien, et pas seulement sur le plan culinaire, c'est-à-dire avec le savoir-faire, la technique. Beaucoup de gens se bloquent aussi, se freinent, n'osent pas mettre les mains à la pâte. Parce que ils savent pas, voilà, je suis nulle, j'ai pas appris, faut aller chercher dans les livres, faut respecter des recettes. Et du coup, ça va les empêcher de tenter l'expérience.
Et surtout que des fois, quand on ouvre le livre de recettes, il nous manque la moitié des trucs, alors du coup, on referme et puis on est énervé.
Et ça peut aussi être un frein pour la réalisation. Alors que, en fait, l'idée, c'est en se connectant aussi à son ressenti, à ses envies, on peut aller vers la réalisation de recettes très très simples qui vont nous permettre de rentrer dans l'expérience sans se sentir bloqué par l'aspect technique.
Donc on va se mettre à cuisiner pour ceux qui n'osent pas et qui n'osent pas se lancer. C'est important parce que les cinq sens vont rentrer en action. On est vraiment sur quelque chose, on parlait de pleine conscience, comme quand on jardine, on dit qu'on peut être forcément, on est en pleine conscience quand on jardine parce qu'on est concentré sur ce qu'on fait. C'est pareil pour la cuisine.
C'est exactement pareil pour la cuisine. Cette notion de sentir l'aliment, c'est-à-dire au niveau olfactif, mais au niveau du toucher aussi, c'est aussi utiliser la vue. C'est aussi utiliser... En fait, nos cinq sens vont rentrer en compte dans ce qu'on appelle le ressenti du goût. Le goût, c'est une notion très subjective qui fait vraiment appel à nos cinq sens. On ne peut pas utiliser simplement la sensation gustative. La sensation gustative se définit par l'ensemble des sens.
Des autres sens.
Et elle est reliée, bien sûr, à l'expérience et au vécu personnel. Donc, la vue de l'aliment à travers la couleur, à travers la forme de l'aliment. On parlait tout à l'heure du pain. Quand je vais voir un beau pain,
ah, ça donne envie.
Je vais déjà avoir envie de cette sensation. Ouais. Si j'aime le croustillant, ben la texture va rentrer en compte. Donc le toucher, en fait, le toucher, il est aussi à l'intérieur de la bouche. Il n'est pas que quand je vais craquer la baguette et l'ouïe, le bruit du pain qui craque comme ça quand il est bien cuit, bien croustillant, va aussi rentrer en compte dans ces perceptions du goût. Et puis bien sûr, il y a l'odorat. Si je sens l'odeur du pain tout chaud, du pain qui cuit, je vais aussi déclencher des récepteurs au niveau neuronal qui vont contribuer à cette sensation de goût. Et du coup, quand je vais le mettre en bouche, bah finalement, il y a déjà tout un ensemble d'expériences qui m'ont amené à cette sensation gustative.
On le voit bien avec les enfants. Les enfants, quand ils voient de la nourriture, ils ont besoin de la toucher, de la sentir, de la goûter, de la patouiller, on va dire. Des fois, on leur dit, touche pas. Mais si, en fait, ils en ont besoin pour découvrir. L'enfant, derrière, il a envie de toucher la nourriture quand il est petit.
Voilà. Alors, finalement, dans cette idée de cuisine thérapeutique, c'est aussi ça. C'est ne plus être dans l'interdit. Justement parce que culturellement, on a eu ces barrières. Alors, vous voyez, on a déjà la barrière de la technique, je sais pas. On a la barrière de l'approvisionnement aussi. Finalement, je sais pas où trouver les produits, à part dans les grands supermarchés. Pour certaines personnes, il y a déjà plus de lien avec la terre, avec le paysan, avec celui qui a cultivé le produit. Donc, c'est retrouver ce lien aussi à la terre. C'est aussi retrouver le lien à ses sensations et se donner le droit de faire ses expériences, se donner le droit de toucher l'aliment, se donner le droit de patouiller, comme vous dites, se donner le droit de manger avec les doigts.
Oui, c'est d'ailleurs. Il y a des cultures qui mangent avec les doigts, d'ailleurs.
Et nous, on est à fond dans la culture, on appelle ça la finger food, hein. C'est sûr que c'est plus sympa, ça, c'est plus tendance avec le nom anglais, mais ça veut dire, en fait, la nourriture qu'on peut manger avec les doigts. Et du coup, on voit bien comment c'est tout de suite très régressif et aussi très agréable de pouvoir plonger la main dans le paquet de chips, sentir ce gras et ce sel sur le bout des doigts, de se lécher les doigts après.
C'est ça, ouais. La cuisse de poulet avec les
voilà,
mains.
Voilà, exactement. Sûr, ouais. Tout, en fait, on est vraiment dans cette culture et le fast-food a compris ça, c'est que ça nous reconnecte aussi, d'une certaine manière, à cette notion d'expérience de toucher. Et puis, à la maison, on n'aurait pas idée. Alors, dès qu'on se met à table, on prend la fourchette, le couteau, et puis, voilà, il faut rentrer dans les conventions. Et finalement, la cuisine, aujourd'hui, c'est beaucoup une histoire de convention. On met la table, on met le couteau à droite, on met la fourchette à gauche, on met la cuillère comme ci, le verre, il faut qu'il soit comme ça. Vous voyez ? Et du coup, là, c'est l'idée d'exploser un peu les conventions pour retrouver une sensation de naturel, quoi.
Avec toujours la notion de plaisir, d'ailleurs, qui est indispensable.
C'est
pour ça, l'objectif. C'est le but, toujours ça. Justement, on va faire notre pain avec vous, Carole, puisque on l'a dit tout à l'heure, c'est un très bel exemple, le pain, parce que les cinq sens, vraiment, je défie quelconque, quelqu'un qui sent du pain qui sort du four, de ne pas avoir envie d'en manger, ou rien qu'à la vue, de déclencher déjà ces petites papilles là qui s'agitent. On en parle juste après avoir écouté Maëlle qui chante « Toutes les machines ont un cœur », et puis on aura également un cadeau à vous proposer comme tous les matins dans cette émission.
Détente, découverte, plaisir. Cet été, France Bleu Pays de Savoie vous fait rêver.
La jeune et talentueuse Maëlle, elle avait gagné The Voice saison 7. Et bien, elle a bien de la chance puisque ce titre, Toutes les machines ont un cœur, est écrit par Zazie et composé par Calogero. Rien que ça pour démarrer sa carrière, c'est plutôt pas mal. Maëlle, Toutes les machines ont un cœur.
France Bleu, Pays de Savoie.
L'assiette savoyarde.
On parle de cuisine avec Carole Prost, qui est naturopathe. Ce matin, on essaye de se reconnecter à ce qu'on mange. On reprend le pouvoir sur sa cuisine et donc sur soi-même. Et on fait notre pain, Carole. Alors, faire du pain, moi, par exemple, je n'en ai jamais fait. Parce que je me dis que j'ai pas de machine à pain, que ça va pas bien lever. Je sais pas, je le sens pas. Alors, du coup, vous nous avez trouvé une petite recette pour ceux qui, comme moi, n'ont pas envie de faire un pain compliqué.
Voilà. C'est un pain que tout le monde peut faire. Ça s'appelle le soda bread. C'est un pain irlandais qui est un pain qui ne lève pas avec un levain ni avec une levure de boulanger, mais qui utilise le bicarbonate de soude, d'où son petit nom soda bread, parce que c'est le petit nom du bicarbonate en anglais. Donc c'est un pain qu'on peut faire avec différents types de farines. Je vais vous donner une recette de base, mais on peut être très créatif, mixer les farines. Moi là, sur mon soda bread, j'ajoute des graines, chaque famille a en Irlande un peu sa recette, donc on peut mettre des fruits secs, on peut mettre différents types de, on peut même mettre des épices, on peut s'amuser avec ce soda bread qui est un peu le pain du quotidien. Alors il faut pas s'attendre à notre pain, à notre French bread, hein.
Oui,
pain français bien croustillant. On ne parle pas de la baguette, on ne parle pas non plus du pain au levain à l'ancienne, mais c'est on va dire à mi-chemin entre le cake et le pain, mais ça a quand même cette texture qui est intéressante pour faire des tartines le matin, pour le goûter. Du coup, ça a un côté très sympa aussi. Donc on part sur une base de 500 grammes de farine. Moi, je mets en général un mix entre farine de petite épeautre et farine de maïs. Ça peut être épeautre ou petite épeautre, mais petite épeautre a beaucoup de caractère, donc ça donne un côté complet qui est bien nourrissant aussi. Donc, on va mettre 250 grammes de farine de petite épeautre et 250 grammes de farine de maïs. Mm-hmm. Mais vous pouvez aussi faire farine de blé complet un mix farine T80. Moi, j'aime bien quand même qu'on ait de la farine semi-complète parce que c'est plus nutritif que de la farine blanche. Et puis, on peut mettre 250 grammes d'une farine de seigle, d'une farine de sarrasin. Vous pouvez vous amuser.
On peut s'amuser, d'accord.
Voilà. Déjà, ça, c'est la base. On aura une cuillerée à café bombée de bicarbonate de soude. Donc le bicarbonate de soude classique,
on en a à la maison souvent.
Voilà, qu'on utilise aussi pour faire
nettoyer,
des produits ménagers.
Oui, on fait tout. Ouais.
Une cuillère à café de sel gris non raffiné, ça c'est important. Hein, essayer de prendre un sel de qualité qui soit pas un sel blanc. Hein, donc acheter un sel de Guérande, hein, c'est qu'on a la chance d'avoir chez nous aussi des sels de qualité. Et puis une poignée de graines de tournesol et une petite poignée de flocons d'avoine. Et puis un peu le secret du soda bread, c'est le lait ribo, c'est le lait fermenté. Donc on met 50 centilitres de lait fermenté.
Et ça, on trouve facilement ?
On trouve ça très facilement dans n'importe quel magasin d'alimentation. On mélange les farines avec le sel et le bicarbonate, on creuse un puits et on rajoute le lait. On mélange, on ajoute les graines, les flocons, on met dans un moule à cake et on enfourne pendant 15 minutes à 220. Et ensuite, on descend la température du four à 200 et on laisse encore 25 minutes, une demi-heure, la première fois surveiller pour voir. Il y en a qui le démoulent à mi-cuisson, puis qu'ils le retournent pour qu'il cuise, qu'il dort bien de tous les côtés. Comme pour tous les pains, à la fin, un petit toc-toc sous le pain. Si ça sonne creux, on vérifie que le pain est bien cuit de cette façon-là. Mmh. Voilà. Et on le laisse refroidir sur une grille et ensuite, on coupe en tranches et on déguste avec un bon beurre, comme vous disiez tout à l'heure.
Un bon beurre au lait cru.
Un bon beurre demi-sel ou un beurre au lait cru de nos régions, c'est sympa aussi.
Et ça fait le repas du soir.
Et pourquoi pas.
Avec une soupe, ça peut être sympa. Et avec le fromage aussi, ça se marie bien, le soda bread?
Oui, très bien. Avec les fromages qu'on a ici, les fromages à pâte cuite, c'est très sympa, mais avec un chèvre frais, c'est bien aussi. On peut, avec un gouda ou avec une pâte cuite, mais un peu qui a un goût un peu plus épicé, ça peut être sympa, ou un bleu, ça peut être très sympa aussi, avec un bleu de terre mignon par exemple.
Ah ouais. Et comme on l'aura fait soi-même, il y a aussi quelque chose de l'ordre de la fierté, non, quand on fait quelque chose et qu'on va le déguster, le partager avec d'autres.
Et on a l'odeur.
On a tout.
Et on met quand même la main à la pâte. Alors, il y a des recettes où on le fait avec les mains, il y a des recettes où on peut faire à la cuillère, un peu comme on ferait le cake. Voilà, c'est après, bah, vous allez justement faire des expériences et voir ce que vous préférez. Mais c'est bien de toucher aussi.
Ouais. Et n'hésitez pas à faire participer les enfants, d'apprendre tout petit aussi.
Et c'est un pain qu'on peut tout à fait faire avec les enfants.
On continue cette discussion avec Carole Prost, qui est naturopathe. Si vous voulez nous rejoindre, vous aussi, nous parler de recettes que vous faites comme ça chez vous, que vous prenez plein de plaisir à les faire, des recettes traditionnelles, pas forcément compliquées, que vous transmettez à vos enfants ou que vos parents vous ont transmises. Si vous avez envie de nous en parler, voilà, de ce côté bien-être quand on cuisine, ce plaisir qu'on peut prendre, vous pouvez nous joindre au 0806 00 10 10, dans cette émission 0806 00 10 10. France Bleu.
Et oui, même l'été, on se pose des questions. Du lundi au vendredi à 6h25, on s'interroge. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on parle de l'histoire de notre région avec Jean-Olivier Vioux, président de l'Académie de Savoie. Les meilleurs moments des pourquoi des pays de Savoie, une curiosité de l'histoire de notre région, c'est à 6h25 sur France Bleu Pays de Savoie. Et surtout, ne me demandez pas pourquoi.
Labellisé France Bleu Pays de Savoie.
Ce vendredi 16 août débute le deuxième MEGEF Festival Savoie Truffe. Une nouvelle édition qui vous invite au voyage entre les pays de Savoie et l'Amérique du Sud. Au programme, spectacles, concerts, débats et projections pour aller au Brésil, en Argentine ou encore au Mexique. La seconde édition du MEGEF Festival Savoie Truffe, c'est dès vendredi et jusqu'au 1er septembre.
À retrouver dans les programmes de France Bleu Pays de Savoie.
France Bleu, partenaire de la meilleure boulangerie de France, de retour dès lundi prochain à 18h45 sur M6. Norbert Arère, chef cuisinier, et Bruno Cormeret, meilleur ouvrier boulanger de France, repartent sur les routes de France pour un véritable road trip à la découverte des boulangeries de nos régions. Chaque jour, des boulangers passionnés, leurs spécialités régionales et des créations extraordinaires. Pour ne pas perdre une miette de la meilleure boulangerie de France sur M6, rendez-vous dès lundi prochain dans vos chroniques télé et sur francebleu.fr.
On vous offre des cadeaux dans l'émission Cuisine tous les matins. Et bien là, nous vous offrons 3 guides de voyage Petit Futé 2019-2020. Un Petit Futé Annecy, un Petit Futé Haute-Savoie, un Petit Futé Alpes. Pour avoir toutes les bonnes adresses, les bons plans, les infos pratiques, culturelles, les idées week-end, les lieux incontournables à visiter, si vous voulez repartir avec ces 3 Petits Futés. Voici la question. On parle de pain ce matin, entre autres, avec Carole Prost, et on parle donc de farine. La farine bise, c'est de la farine de type 80 ou de la farine de type 150? La farine que l'on appelle bise, B-I-S-E, est de la farine de type 80 ou 150. Vous tentez votre chance auprès d'Evelyne sur la ligne bleue au 0806 00 10 10. Collins, In the Air Tonight. Notre jeu ce matin parlait de farine dans notre émission cuisine. Il y a gagné 3 guides de voyage petit futé, Annecy, Haute-Savoie, Alpes. Et c'est Michel qui va tenter sa chance. Elle est à Villaz. Bonjour Michel.
Bonjour.
Alors Michel, la farine bise, c'est de la farine de type 80 ou de type 150 à votre avis?
De type 80, je pense.
Eh bien oui, c'est une bonne réponse. Est-ce que vous regardez un peu les farines que vous achetez? Vous faites attention à tout ça, Michel, ou pas? Ou pas trop?
Absolument, j'adore faire la cuisine et donc la 150, je crois que c'est l'intégrale, la complète.
Exactement, il y a Carole Prost qui est naturopathe à mes côtés qui fait oui de la tête, on confirme hein Carole.
On confirme.
Le type de la farine, ça exprime la quantité de minéraux. Voilà, je vous explique, parce que j'ai travaillé, hein, je ne savais pas. Hein. Les minéraux, donc du coup, plus il y a de minéraux, effectivement, plus c'est complet. Donc 150, de la farine intégrale, on peut cuisiner avec de la T150, Carole Prost?
Oui, oui, on peut même faire du pain avec de la T150.
On peut faire du pain,
on peut faire du pain, mais c'est du pain bien costaud.
C'est nourrissant.
C'est nourrissant, c'est ce qu'on va dire. Michel, en tout cas, c'est une bonne réponse. Donc déjà, vous gagnez 3 guides de voyage petit futé, Annecy, Haute-Savoie, Alpes, Michel. Et puis en plus, eh ben, puisque vous êtes là, si vous avez une petite recette à nous donner, vous, qu'est-ce que vous aimez bien cuisiner, Michel? Qu'est-ce qui vous plaît dans la cuisine?
Beaucoup les légumes, les viandes aussi. Je suis un peu moins poisson parce que je fais un peu moins faire, je pense. Voilà.
Ouais.
Et j'adore faire la pâtisserie, pardon.
Ah, la pâtisserie. Ouais, alors ça, du coup, c'est pour ça que vous vous amusez avec les farines, du coup. Mais souvent, on entend ça... Oui, pardon, Michel, allez-y.
J'y vais pour la pâtisserie. Souvent, j'utilise la T45 pour faire donc les recettes sucrées et la farine céréales et graines pour les recettes salées.
D'accord. En sachant qu'on peut aller aussi sur de la T80 sur du sucré,
oui,
Carole.
Oui. Alors si vraiment vous voulez plus de finesse dans le résultat, c'est sûr que c'est la 65 qu'il faudra prendre, qu'on trouve assez facilement dans les magasins bio, mais qui reste quand même plus nutritif que la 45, puisque comme Sylvia l'a expliqué, c'est le résidu de minéraux après qu'on ait brûlé en fait la farine qui nous montre en fait sa qualité nutritionnelle, et donc 45 forcément. Forcément, on a beaucoup moins de minéraux au kilo par rapport à la 65 ou à la 80. Donc c'est vrai que même pour les recettes sucrées, on n'a pas de transformation majeure avec de la 65, en tout cas pour les recettes qu'on fait à la maison. Pour les grands pâtissiers, c'est sûr qu'ils vont le plus souvent utiliser de la farine très raffinée parce qu'elle va permettre de donner un côté plus aéré, comme pour le sucre hein, d'ailleurs, qui va être très raffiné en haute pâtisserie.
Mais pour la pâtisserie de la maison, pâtisserie, on peut aller sur de la 65 ou 80.
C'est même conseillé. Pour les cakes salés, on peut aller sur la 80 sans aucun problème. On peut même faire à la farine complète pour avoir un côté un peu plus rustique, ça amène beaucoup de goût et ça change un peu les textures, donc c'est très intéressant et c'est toujours plus intéressant, surtout pour la santé.
Ben voilà, Michel, vous repartez avec un petit conseil, vous pouvez même partir sur la 65 et la 80 pour être un petit peu plus nourrissant dans vos pâtisseries. Et puis on va accueillir Françoise de Maxilly-sur-Léman. Bonjour Françoise.
Oui, bonjour.
Françoise, vous nous écoutez et vous aussi vous aimez cuisiner, c'est que du plaisir la cuisine?
Pardon?
C'est que du plaisir chez vous, la cuisine?
Ah oui. Nous, on fait toujours de la cuisine à la maison.
Ouais.
Beaucoup de cuisine, oui. Oui, j'avais une proposition pour les auditeurs. C'est la recette de la courgette sucrée en dessert.
Ah, alors comment vous faites ça?
Voilà, alors avec des courgettes, et si toutefois on oublie une grosse courgette au jardin, c'est idéal. Mais les petites vont très bien aussi. Hein.
Mm-hmm.
Donc vous épluchez les courgettes, vous les faites cuire à la vapeur, ensuite vous les mixez et vous ajoutez progressivement une bonne cuillerée de farine ou de maïzena, selon la quantité. Moi je parle pour une belle courgette.
Mm-hmm.
Une cuillerée de maïs, de maïzena ou de farine, et ensuite un peu de sucre et du lait, et jusqu'au premier bouillon, enfin on attend qu'il y ait quelques bouillons, et vous mettez ça dans des coupes et vous servez très froid. Et c'était un délice.
D'accord, donc vous mettez au frigo après pour refroidir votre recette.
Voilà, et c'est une crème vert pistache qui est délicieuse.
Ah ouais.
Date de nos arrière-grands-parents.
D'accord, donc c'est une recette que vous transmettez de génération en génération.
Voilà.
La crème à la courgette sucrée, c'est un peu ça. D'accord. Oui. Ben voilà, Carole, on découvre. Hein.
Super, je vous remercie parce que je ne connaissais pas du tout. Je connais la courgette dans les gâteaux au chocolat pour donner du liant. Comme on peut utiliser la betterave aussi, qui donne un côté sucré pour les gâteaux au chocolat. Mais cette recette de crème froide à la courgette, je ne connais pas du tout. Donc, je vous remercie.
À essayer. Mmh. Voilà, on peut réécouter l'émission en podcast si vous voulez réécouter la recette de Françoise. Merci, Françoise.
Voilà,
merci à vous pour le partage des recettes. Merci. Ça, c'est sympa aussi quand les familles ont leurs propres recettes, qu'elles se transmettent. Il y a cette notion de patrimoine aussi hein, dans la famille.
Ça peut aussi avoir un aspect thérapeutique, la cuisine. C'est que parfois, c'est l'idée d'aller retrouver ce goût qu'on a. C'est un peu la Madeleine de Proust. Vraiment cette idée, la crème de ma grand-mère, justement, la crème, le flan de la grand-mère ou le super rôti.
C'est vrai. Et on a l'impression qu'on n'arrive jamais à égaler d'ailleurs à nos aïeuls.
Oui, parce que nos attentes,
elles sont énormes.
Et puis surtout, elles sont fantasmées. Elles sont liées au souvenir, donc on ne pourra jamais atteindre ce que nous apporte le souvenir. Mais ça peut aider des gens à se mettre à la cuisine et à se dire « Allez, je vais être dans cette notion de transmission. »
Et en démarrant avec des choses simples, hein, si on n'est pas un caïd de la cuisine, on peut s'y mettre quand même. J'aimerais qu'on parle un petit peu aussi de quelque chose qui est tendance, et on nous dit que c'est très bon pour la santé, c'est tout ce qui est lactofermentation. Des légumes lactofermentés, c'est quoi la différence entre une conserve et une lactofermentation en mode de conservation ?
Ça, c'est une très très bonne question, puisqu'en fait, la conserve, c'est l'opertisation. Donc, en fait, on met juste les légumes, un peu comme c'est la stérilisation version boîte en fer, quoi.
Ouais, d'accord.
Mais c'est le même mode de fonctionnement. On enlève l'air et en fait, il y a une forme de stérilisation à haute température, sans air, et c'est tout.
D'accord.
Donc là, il n'y a pas d'ajout, il n'y a pas de travail sur la matière et sur le vivant. On fige, en fait, quelque part, l'aliment de façon à ce qu'il se garde dans le temps. Avec la lactofermentation, on fait vivre l'aliment. C'est-à-dire qu'on va, grâce à une saumure, donc la saumure, c'est un mélange d'eau et de sel, comme on le fait avec les olives. Vous connaissez tous la lactofermentation grâce à la choucroute. En fait, la choucroute, c'est le légume lactofermenté que tout le monde connaît. Ça permet en fait le sel d'activer les bactéries qui vont se trouver directement
naturellement
dans les légumes qu'on fait lactofermenter et de développer des bactéries de type lactique. C'est pour ça qu'on appelle ça la lactofermentation. Donc non seulement la lactofermentation va permettre de conserver le produit
très longtemps,
mais va aussi lui amener un plus au niveau santé puisque ça va développer ces bactéries qui sont à viser avec des vertus, on va dire, probiotiques.
Donc c'est vraiment intéressant nutritionnellement de faire des lactofermentations de nos légumes si on a beaucoup de courgettes, là, par exemple, ou beaucoup de carottes ou je ne sais quoi.
Les concombres, les courgettes, les carottes. Les carottes, c'est facile. C'est vrai que pour commencer, il vaut mieux commencer avec quelque chose de facile. Les légumes racines se prêtent très très bien à la lactofermentation. Le chou se prête très bien, bien sûr, avec la choucroute. Mais vous pouvez tout simplement essayer avec 1 kg de carottes.
Alors comment on fait ?
Alors on va râper les carottes et puis on va tasser. Alors il y a deux techniques. Hein. Soit on va faire des couches, donc un peu de carottes, on met un peu de sel, carottes, sel, carottes, on alterne et on va couvrir avec un petit peu d'eau. Soit il y a la technique saumure, donc on fait un mélange déjà dosé avec de l'eau et du sel. En général, c'est 10 grammes de sel pour 1 litre d'eau. Et on dilue en fait cette eau qu'on peut faire chauffer. Il y a pas mal de recettes. Il y en a qui font chauffer, il y en a qui font pas chauffer. Moi, je propose en général quelque chose de facile, c'est d'alterner en fait. Donc mettre les carottes râpées dans le bocal, bien les tasser, ça c'est important. Donc soit avec un pilon de mortier, soit avec un petit verre, tout simplement. On ajoute de l'eau. Donc moi, je mets de l'eau froide de façon à bien les immerger. Et on aura bien sûr mis le sel en alternance. Et puis ensuite, on va laisser un espace vide, ça c'est très important, entre l'eau et le haut du bocal, parce que avec la fermentation, l'eau va déborder. Donc en général, on pose ce bocal dans une grande assiette creuse, par exemple, pour pouvoir recueillir l'eau. On va laisser comme ça pendant quelques heures, voire un jour ou deux.
Ouais.
Et puis ensuite, on va fermer les bocaux hermétiquement et on les conserve à l'abri de la lumière.
Et alors le fait d'avoir mis du sel, est-ce que le goût du produit va se transformer quand on va rouvrir
Oui, ça n'a pas le goût des carottes râpées que vous allez faire en salade. Hein. Ça va avoir une légère acidité, mais c'est vraiment très léger.
Non, on ne rince pas, on consomme directement.
La seule chose, c'est qu'il ne faut pas en consommer en grosse quantité, parce que c'est probiotique, en fait, hein, ces bactéries probiotiques ont un effet bénéfique sur l'intestin, mais c'est un peu, on considère les aliments lactofermentés comme des super aliments. On ne va pas se faire une assiette complète de légumes lactofermentés. Voilà, on va en mettre des petites quantités et on va en manger régulièrement. Donc quand vous faites un bocal, donc vous ne devez pas le toucher avant 2-3 semaines. Et puis quand vous l'ouvrez, vous le conservez au réfrigérateur. Il se garde là pendant plusieurs mois.
Ah oui, d'accord.
Sans aucun problème.
Et on prend au fur et à mesure.
Et vous prenez au fur et à mesure.
D'accord.
Comme on le fait avec la choucroute en fait.
Et ben, si vous voulez retrouver la recette du soda bread ou de la lactofermentation ou la crème de courgette sucrée de notre auditrice, vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur francebleu.fr. On arrive déjà à la fin de cette émission, Carole. On rappelle que vous menez des ateliers justement pour qu'on se reconnecte, pour qu'on refasse travailler nos sens, qu'on reprenne plaisir à cette cuisine. Une série d'ateliers qui redémarrera début 2020 ?
Oui, au mois de janvier. C'est toujours lieu de janvier à juin.
Nutrisense.
Un atelier par mois, voilà, Nutrisense.
Pour c'est... donner du sens à ce qu'on mange.
Exactement.
Ouais, et ça, c'est intéressant. Si on veut en savoir plus, il y a le site internet ?
Oui.
Carole Prost.
www.carolprost.fr.
Tout simplement. Merci beaucoup, Carole, d'être venue
nous voir.
Merci
à vous.
Merci à tous.
We are so lights we can see in the dark. We are rockets pointed up at the stars. We are billions of beautiful hearts. And you sold us down the river too far. What about us? What about all the times you said you had the answers? What about us? What about all the broken happy ever afters? What about us? What about all the plans that ended in disaster? What about love? What about trust? What about to be solved? We are children that need to be loved. We were willing, we came when you called. But man, you fooled. What about us? What about all the times you said you had the answer?
What About Us, Pink sur France Bleu.
Pour podcaster cette émission, francebleu.fr.